En 2021, ils ont secouru 13 616 personnes, ont réalisé 8 466 interventions de sauvetage. Ils sont près de 8 800, prêts à nous porter secours en mer, parfois au péril de leur vie et bénévolement. Lors de la dernière édition de l'Armada, ils ont joué un rôle central dans la tenue même de l'événement. Quel a été précisément ce rôle? Comment devient-on bénévole et avec quelle formation? Pour le savoir, nous avons rencontré Louis Romé, directeur adjoint de la SNSM 76, et Tom Goss, sauveteur bénévole. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Normand, toujours en couverture de cette Armada 2023. Je suis avec Florian qui va vous dire bonjour.
Bonjour.
Et je me trouve avec Louis Romé et Tom Goss, qui sont sauveteurs de la SNSM. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Donc le but de cet épisode, c'est un peu d'expliquer en fait à vous quelles sont les missions et qu'est-ce qu'ils font pendant l'Armada, quelles sont leurs missions spécifiquement pendant l'événement. Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est une question que je pose souvent, c'est est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que nous sommes exactement? Nous sommes à Rouen, mais est-ce que vous pouvez déjà nous dire où est-ce que nous sommes?
Alors on est actuellement au CFI de Rouen, donc le centre de formation et d'intervention de Rouen de la SNSM, les sauveteurs en mer. On est situé là actuellement au bassin Saint-Gervais, à côté de la gendarmerie portuaire, rive droite.
Quelles sont les missions de la SNSM en général tout d'abord et ensuite quelles sont vos missions de manière spécifique, peut-être plus spécifique pendant cette Armada 2023?
Alors les missions, la mission principale à la base de la SNSM, donc c'est la sauvegarde de la vie humaine, donc ça va être porter assistance à toute personne en difficulté. Là, plus particulièrement sur l'Armada, donc on assure toute la partie sécurité nautique. Donc juste nous, notre rôle, c'est si quelqu'un tombe à l'eau, on l'extrait de l'eau et on le confie ensuite aux équipes qui sont sur terre. Ou alors si on se trouve sur une zone où il y a un malaise sur les quais, bah, qu'on peut intervenir plus rapidement qu'une équipe qui est encore au poste sur terre, et ben on va prendre la première prise en charge et ensuite on va passer le relais pour pouvoir retourner assurer la sécurité nautique.
D'accord. Florian, peut-être une question?
Oui. Alors pour les personnes qui nous écoutent, comment devenir sauveteur à la SNSM?
Alors pour devenir sauveteur à la SNSM, donc en fait il suffit tout simplement de se rapprocher d'un centre de formation et d'intervention. Donc quel que soit un peu partout en France, hein, il y en a 33 en France, ici donc on en a un à Rouen. Il suffit de se rapprocher de nous en septembre et on organise souvent une réunion d'information et des tests de sélection ensuite. Et vers fin septembre, début octobre, on annonce ceux qui seront sélectionnés pour participer à la formation. Et la formation débutera ensuite mi-octobre, fin octobre.
J'ajoute que par ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit, on se trouve actuellement lors de cet enregistrement dans une salle de formation, donc où on forme des bénévoles à cette fin. Donc particulièrement, vous venez de dire que votre mission principale, c'est bien entendu la sauvegarde de la vie humaine. Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour nos auditeurs d'intervention que vous avez eu à réaliser sur une personne qui serait éventuellement tombée à l'eau ou quelque chose comme ça durant cet événement?
Alors, nous deux, on n'était pas sur zone cette semaine, mais c'est des équipes qui y étaient. Une dame qui est tombée à l'eau, alors on ne connaît pas les raisons, peut-être pour prendre des photos plus près, qui a loupé le quai. Et donc son mari a sauté à l'eau pour la récupérer et avec le courant ils ont commencé à se faire emporter. Donc nous on est intervenu en premier parce que notre bateau était à côté et ensuite les pompiers ont pris le relais et on a travaillé ensemble et donc tout va bien, hein, ils sont juste tombés à l'eau. Après on a eu aussi cette expérience qui était un peu plus compliquée, c'était en préparation de l'Armada. On faisait les entraînements nous pour manier le SR sur l'eau avec le courant et il y a deux jeunes qui sont tombés à l'eau. Malheureusement il y en a un qu'on n'a pas pu récupérer car il était sous l'eau, donc les pompiers plongeurs eux sont arrivés, que nous on n'est pas plongeurs.
D'accord.
Et donc on a travaillé encore une fois avec les pompiers et avec le SAMU, donc voilà, finalement quand on est sur la scène il y a beaucoup de gens finalement qui peuvent tomber à l'eau.
Oui, l'occasion peut-être éventuellement de rappeler un message de prudence élémentaire.
C'est ça, bah, ne sautez pas dans la Seine.
Voilà, ne prenez pas parce qu'on le voit souvent, d'ailleurs nous-mêmes on est sur Instagram, c'est l'occasion aussi de le rappeler, de personnes qui prennent des risques inconsidérés au bord de l'eau pour prendre la meilleure photo possible, et malheureusement parfois on arrive...
Le problème de la Seine, c'est qu'il y a énormément de courant, Et ce qu'on ne voit pas en dessous, c'est qu'il y a des crevasses et les gens peuvent rester coincés à l'intérieur des quais, sous les quais. Et là, on peut plus sortir quand on est bloqué par le courant. Donc voilà, faut faire hyper gaffe et éviter d'aller dans l'eau.
Par rapport à la grande pagaille de demain, comment vous faites la grande parade, s'il y a plusieurs personnes qui sautent à l'eau en même temps, comment ça se passe niveau sécurité?
Alors déjà, on a un PC sécurité qui gère tout, qui coordonne tout. Et nous ensuite, on a des techniques de sauvetage qui nous permettent de récupérer les personnes une par une. Parce que l'idée, c'est de sauver les gens, mais c'est aussi de nous se mettre en sécurité. Si on avance sur une grappe de personnes, de victimes, on peut se faire attraper. Et dans ce cas-là, nous, être aussi une victime. Donc l'idée, on a des manières, des manœuvres pour récupérer les victimes une par une. On peut également, en dernier recours, envoyer un nageur de bord à l'eau pour aller sécuriser les victimes. Voilà. Et après, on trie les victimes en fonction de la gravité. C'est tout, c'est que des méthodes et c'est des formations qu'on fait ça pour le savoir.
Je voulais également savoir, donc là actuellement, donc il y a plusieurs équipes, vous me dites que vous êtes à peu près une quarantaine, hein, c'est ça, là sur ce site là, pour l'armada, pas spécifiquement pour l'armada d'ailleurs, mais vous êtes une quarantaine à peu près, c'est ça?
C'est ça, donc nous au centre de formation, on est une quarantaine de bénévoles. Après là, il y a des sauveteurs qui viennent de partout en France pour renforcer nos équipes, parce que on mobilise 12 sauveteurs pendant 10 jours de 9h du matin à 18h et de 18h à 2h du matin.
Ouais. C'est 24 au tout en tout.
Donc
c'est tout le monde.
C'est ça. Ouais. C'est 24 sauveteurs par jour et puis il faut considérer la fatigue des équipes. Donc pour assurer tout ça, on a du renfort qui vient de partout en France.
Et alors, je vais poser, mais parce que je me dois de la poser la question un peu bête, qui doit impérativement venir parce qu'on me le sort régulièrement, et on est là aussi pour éclaircir aussi beaucoup de questions. Donc vous êtes des bénévoles, c'est-à-dire que vous n'êtes pas rémunérés en aucune façon. C'est ce que vous m'avez dit en fait juste avant qu'on commence. En fait, vous pouvez avoir une indemnité de déplacement. C'est ça, quand vous vous déplacez dans un endroit, mais sinon, vous n'êtes pas rémunéré. C'est ce que vous m'avez dit.
C'est ça. Là, aucun des sauveteurs qui se trouvent sur l'eau, sur zone, aucun sauveteur n'est rémunéré. Bien entendu, hein, comme vous le disiez, tous les sauveteurs qui viennent, par exemple, de Toulon, de Lille, on leur indemnise leur trajet pour évidemment que ça ne leur coûte pas de frais et pour qu'ils puissent venir nous aider et nous soutenir dans cette action et dans ce poste de secours.
Et c'est à quelle hauteur, par exemple, quelqu'un qui vient du sud de la France pour venir ici à l'Armada Dormant, ça suffit pour lui couvrir ses frais ou...
Alors, quand c'est comme ça, on leur demande évidemment de prendre tout ce qui est ticket de péage et essence.
Bien sûr.
Et on rembourse la différence d'essence. Enfin voilà, on fait une soustraction et voilà. Donc c'est péage et essence. Après, en tant que formateur, on peut être défrayé de 20€ pour la formation. Et quand on participe à des formations donc de la DIRFORM, donc c'est des formations qui sont au-dessus organisées par le siège à Paris, là il y a un tableau qui nous permet de savoir de quel département on est et où est-ce qu'on va, et après c'est un calcul qui est fait directement en ligne, quoi.
Et vous avez déjà commencé à aborder un petit peu la question tout à l'heure, mais je voudrais aller un peu plus sans mauvais jeu de mots, en profondeur. Un événement comme l'Armada, qui a lieu tous les 4 ans à Rouen, ça se prépare combien de temps en amont et comment ça se prépare concrètement quand on est sauveteur à la SNSM?
Alors, ça se prépare au minimum un an à l'avance. Notre directrice, Sandrine Dossier, ça fait plus d'un an qu'elle travaille sur le sujet. En fait, on nous a dit, voilà, on aimerait bien que ce soit le CFI de Rouen qui soit sur zone. Alors évidemment, comme Tom l'a dit, hein, on a demandé aux effectifs extérieurs de venir parce qu'on ne peut pas assumer tout seul. Mais avec l'aide de Paris et Sandrine, on a travaillé sur les plannings, les réunions Armada, les réunions préfecture, parce que à la préfecture, on a plusieurs réunions dans l'année.
D'accord.
Pour justement gérer la sécurité nautique, terrestre, voilà, donc des réunions avec les pompiers, la police, le SAMU, le Dragon 76. Donc voilà, toutes les équipes de sécurité et de sauvetage ont travaillé là-dessus, et donc nous, à la SNSM, ça fait plus d'un an qu'on prépare, et même 15 jours, un mois à l'avance, on avait encore plein de choses à faire. Ouais. Récupérer les bateaux des centres de formation extérieurs, On a des bateaux qui sont arrivés peut-être une semaine ou deux jours avant.
Ouais.
Donc après, c'est toute la logistique derrière. Donc on a une grosse équipe logistique qui prépare les bateaux, qui les révise s'il y a quelque chose de cassé. Donc non, du gros boulot, voilà.
Ouais. Flo, peut-être.
Oui, je veux rajouter ça. C'est surtout pour toute la partie logistique. Après, sur la partie un peu plus, on va dire terrain, ça fait plus d'un an et demi qu'on forme au moins les pilotes des embarcations, nous ici sur Seine, pour qu'ils puissent travailler avec le courant et travailler, connaître le milieu de la Seine, qui est un milieu particulier et qui peut être différent de la mer, parce que ça reste similaire, mais avec de grosses différences, surtout au niveau des courants, sur certaines manœuvres, ça peut être délicat. Donc ça fait plus d'un an et demi qu'on prépare nos équipages à ça aussi.
Justement, parfaite transition. C'est quoi, en fait, plus précisément, en fait, les différences quand on navigue en mer et quand on navigue dans un fleuve?
Alors, tu veux commencer?
Ouais.
Vas-y, t'es idée, sinon...
Bah pour moi, la plus grosse différence qu'on va avoir, c'est que sur la Seine, on peut avoir des courants vraiment très particuliers qu'on ne va pas retrouver en mer. Enfin, quand on va se trouver en pleine mer, et bah à la rigueur, la contrainte, ça va plus être les vagues, mais le courant va souvent être dans une même direction ou va pas forcément nous pousser sous une pile de ponts, quoi.
D'accord.
Et là, la difficulté, c'est que on peut se retrouver dans des endroits assez exigus quand on voit tous les bateaux. Donc ça peut être faire des manœuvres délicates, ouais, dans des endroits très exigus et avec un courant très fort. Surtout lorsqu'on se retrouve parallèle au courant, en fait, le bateau va se mettre de trois quarts, parce que l'arrière va se faire pousser par le courant, et puis en compensant avec le moteur, il va se décaler. Et donc c'est ça les plus grosses contraintes, je pense, qu'il y a la plus grosse différence entre la mer et la Seine.
Non, à part dire qu'il y en a une qui est salée, puis l'autre qui est douce. Non, la contrainte aussi, là c'est plus psychologique hein, pour les équipes, c'est le public. En mer, on a très peu de gens qui peuvent nous voir. Alors que là, si jamais on est dans le courant et qu'on a une galère ou quoi que ce soit, on a la pression psychologique également du public qui peut nous voir. On en parlait tout à l'heure de l'accident. Nous, on n'est pas plongeurs. On n'a pas de plongeur chez nous. Et la personne qui était sous l'eau, on ne pouvait pas faire grand-chose à part attendre les plongeurs des pompiers. Et le public a été assez virulent envers nous, en disant qu'est-ce que vous faites, vous ne pouvez rien faire, etc. Donc là, c'est le rôle du patron, donc du chef, celui qui pilote chez nous, de gérer ses équipes et après de faire des débriefings. Donc avec Sandrine, il y a eu des débriefings, notre directrice, hein, il y a eu des débriefings derrière plusieurs jours, plusieurs semaines après, pour gérer les équipes. Et là, c'est vraiment
l'abcès.
L'abcès psychologique. Ouais. L'aspect psychologique. L'abcès, c'est autre chose. Donc voilà.
Justement, je vais peut-être vous donner l'occasion de le redire. Qu'est-ce que, en cas de problème urgence, qu'est-ce que la SNSM peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire?
Alors, faut faire attention, c'est qu'à la SNSM, il y a deux types hein, de sauveteurs. Il y a les sauveteurs embarqués, on en a parlé tout à l'heure, ceux qui partent en mer, qui sont déclenchés par le CROSS. Donc c'est pour vulgariser le truc, c'est le SAMU maritime. C'est eux qui les déclenchent quand il y a un accident en pleine mer, une avarie, un accident, un malaise, quoi que ce soit. Et nous, les nageurs sauveteurs, on est sur les plages. Donc un sauveteur, il peut venir vous sauver, mais faut pas qu'il se mette en danger.
D'accord.
Donc sur les plages, si on vous dit que faut pas aller nager, c'est qu'il y a une raison, c'est oui, qu'il y a des courants, c'est qu'il y a du shoreback.
Et on le rappellera jamais assez.
C'est ça, voilà. Donc nous, notre devoir, c'est toujours d'aller sauver les personnes en danger, en détresse. Mais faut pas que nous, on se mette en danger à côté.
Et si vous mettez, si une personne se met en danger et que ça met en danger à votre vie, vous devez quand même aller la secourir.
Alors là, c'est au, tu me corrigeras, hein, mais c'est au bon vouloir du chef. C'est-à-dire que si le chef décide qu'il ne mettra pas en jeu la vie de ses équipiers et sa vie à lui, il ne le fera pas. On pourra pas reprocher à quelqu'un d'avoir refusé de se mettre en danger pour aller sauver quelqu'un qui n'a pas respecté les règles. Par contre, on peut reprocher à quelqu'un de ne pas y être allé parce qu'il ne faisait pas attention, parce qu'il ne surveillait pas, etc. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
Et comment se passe un sauvetage en mer quand il y a vraiment un blessé grave, où il y a un hélicoptère qui vient hélitreuiller la personne, ou vous attendez un autre équipage?
Tout dépend de la gravité, tout dépend de la distance où on est. Si on a un blessé grave ou un arrêt cardiaque, Déjà, il y a toute une chaîne de secours, hein, donc on prévient quand on arrive sur zone la personne qui nous a prévenu. Donc souvent c'est le cross qui nous déclenche pour ça. Et si on voit que c'est un arrêt cardiaque, donc on commence les premiers soins, les premiers secours évidemment. Et ensuite, si on est très loin, il y a effectivement un hélicoptère, donc ça peut être Marine Nationale ou le Dragon 76, la sécurité civile qui peut venir nous renforcer. Souvent, les hélicos, ils sont là que pour quand c'est grave. Donc, si c'est un arrêt cardiaque, il sera là. Voilà. Après, si c'est juste une jambe cassée, bon, on fait ce qu'il faut en termes de secourisme et puis on ramène à terre. Non, c'est bon.
Je voudrais peut-être pousser plus loin sur l'aspect psychologique. Alors, sans rentrer bien sûr dans des questions ultra personnelles, mais j'imagine que quand on est bénévole à la SNSM, on peut faire parfois face à la mort, à des personnes qu'on ne peut pas sauver ou à des personnes qu'on ne peut pas réanimer. Je sais pas moi, est-ce que parfois ça vous arrive de avoir des difficultés à trouver le sommeil parce que on n'a pas réussi, ou on arrive en fait dans son mental quand on est bénévole à faire abstraction de ces données, ou c'est parfois impossible?
Non, c'est très compliqué. Sur le moment, je pense qu'on ne réalise pas vraiment, parce qu'avec l'adrénaline et on est formé pour ça. Ouais. Donc on est à fond dedans. Après, avec le recul, voilà, on a les images qui peuvent revenir. On peut effectivement ne pas dormir. Et là, tout l'intérêt d'avoir une équipe solide, d'avoir un bon chef de poste, c'est de la discussion, c'est des conseils. En tant que directeur adjoint ou notre directrice, on est là aussi pour tous nos sauveteurs. S'il y a quoi que ce soit qui arrive en saison ou dans l'année, ouais, on est là pour eux, on va les conseiller, on va les diriger vers des professionnels, parce que la SNSM peut nous donner des psychologues. C'est arrivé sur des plages, hein, que des psychologues se déplacent, des cellules de crise.
Bien sûr, ouais.
Et donc là, les sauveteurs sont pris en charge. Et faut surtout pas hésiter, quand ça nous arrive, d'en parler.
Ouais.
Parce que c'est le fait de ne rien dire qui est compliqué. Peut-être que t'as autre chose à dire là-dessus, non?
Non.
Non plus? Enfin, voilà, faut parler. Faut pas hésiter.
C'est aussi un des messages importants. Je pense que, d'ailleurs, ce podcast, on revient souvent, hein, que ça soit sur d'autres types d'intervenants, mais c'est un message qui revient souvent. La santé mentale n'a pas de prix, et donc s'il y a des problèmes, c'est aussi le message, il faut savoir en parler. Vous deux, ça fait combien de temps que vous êtes bénévole à la SNSM?
Alors moi, depuis 2017, je suis rentré en formation en 2017, et après, quelques années après, je suis devenu formateur secouriste.
D'accord.
Et ensuite, directeur adjoint depuis 2 ans.
Et puis moi, pour ma part, ça, je suis rentré il y a 3 ans, en 2020.
En plein Covid. c'était en fait, c'est le confinement qui t'a motivé à...
Non, du tout. Je souhaitais faire ça depuis que je suis au collège, en fait.
D'accord.
Donc dès que j'ai pu avoir l'âge, je suis rentré aussitôt.
C'est bien.
Voilà. Bah, quel âge peut-on rentrer à la SNSM?
Alors, on peut rentrer à la SNSM à partir de 16 ans.
C'est ça,
donc pour passer les premiers diplômes et en fait pouvoir faire sa formation en 2 ans. Donc selon les personnes, pour dégager aussi un petit peu de temps, on peut mettre en place des sessions de formation sur 2 ans. Et donc pour passer le PSE1, PSE2, on peut les obtenir à partir de 16 ans, permis côtier aussi, et donc même après commencer à travailler avec. Donc pouvoir venir sur des postes de secours, sur des petits postes de secours pour commencer à avoir un petit peu de concret. Et après, pour passer le BNCSA, il faut être âgé de 17 ans pour pouvoir passer l'examen. Et pour pouvoir ensuite exercer avec, il faut avoir 18 ans. Et donc après, le SSA qui s'ensuit suit forcément 18 ans, vu qu'il faut avoir le BNCSA pour obtenir le SSA.
Vous pouvez rentrer à 16 ans, mais pour être opérationnel, 2 ans après, c'est 18 ans.
Et pendant la période Covid, c'était une année beaucoup plus creuse pour vous, ou c'était beaucoup plus intense?
Tu me diras, mais ça n'a pas été beaucoup plus intense ni plus creux. Je crois qu'on a fait à peu près pareil en termes de stagiaires. Ce qui était plus compliqué, c'était tout ce qui est gestion des consommables. Donc les charlottes d'hygiène, les gants, tout ça. Parce que là, déjà, ça nous coûtait plus cher. Donc, la formation coûtait un peu plus cher ces années-là.
Ouais.
Et c'est de la gestion. Donc là, c'est que la gestion logistique. Hein. Faut bien faire attention d'avoir tout le matériel nécessaire.
J'imagine par ailleurs que vous avez dû souffrir de la pénurie de masques ou autres comme tout le monde.
Des masques, on en avait déjà pas mal avant, ouais. Mais c'est vrai que sur la fin, je crois qu'on a manqué de masques. On a réussi à s'en sortir quand même. Plutôt bien, je trouve.
Et combien coûte la formation pour entrer à la SNSM ?
Alors, chez nous, chaque année, les prix changent. Il me semble que c'est 1100 euros.
Ouais, c'est dans cet ordre-là.
C'est ça. À l'année Covid, c'était un peu plus cher. On était à 1002-1003. Pour tout ce qui est assurer les consommables. Mais c'est entre 1000 et 1100 euros. Faut savoir que, il peut y avoir des aides qui sont là pour financer cette formation-là.
C'est ça.
Le CPF ou autre.
Des aides du département, de la région. Il y a plusieurs aides. Après, c'est à chacun de faire ses démarches.
Et ensuite, à savoir que la formation, quand vous faites un mois de plage, c'est remboursé. Parce que sur les plages, on est payé entre 1000, on est payé au SMIC déjà, ou un peu plus. Et donc, une année de formation qu'on a payée est tout de suite remboursée.
D'accord. Et puis la SNSM s'engage auprès de chaque nouveau stagiaire à leur fournir au minimum un mois de plage l'été pour qu'ils remboursent leur formation et que leurs frais soient totalement remboursés.
D'accord.
Donc c'est une sorte d'avance, quoi.
Alors moi j'ai deux dernières questions puisqu'on va bientôt arriver au terme de cet entretien. Florian aura deux dernières questions également. Avant dernière question, moi je voulais en fait savoir, vous me l'avez dit tout à l'heure, mais c'est l'occasion aussi de le rappeler parce que c'est important. Il n'y a pas que des sauveteurs en mer sachant nager à la SNSM. On peut aussi avoir d'autres personnels. Chacun peut se rendre utile, finalement.
C'est ça. Dans un centre de formation, ça ne tourne pas qu'avec des nageurs sauveteurs. Ça tourne principalement avec des gens de l'ombre, donc la logistique, tout ce qui est préparation de matériel, de nourriture pour les formations. Donc nous, on a une équipe logistique qui est quand même incroyable. Ils sont là partout et tout le temps. Ils sont plus fatigués que nous, je pense. Ouais. On n'a rien à faire de ce point de vue-là. Et on a également tout ce qui est mécanicien. On recherche toujours des gens qui connaissent la mécanique des bateaux, les moteurs. Ouais. On peut tout avoir. Nous, notre trésorière, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une ancienne comptable. Ouais. Donc la comptabilité est parfaite. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on a tous un rôle à jouer au sein de la SNSM et notamment dans un centre de formation.
Ouais. Et donc en fait, dans le podcast normand, on s'adresse aussi à un public en situation de handicap, personne à mobilité réduite, dont personnellement j'en suis. Donc on peut imaginer, d'après ce que vous venez de dire, que une personne à mobilité réduite qui souhaite s'engager d'une manière ou d'une autre à la SNSM puisse tout à fait le faire.
Bien sûr, il n'y a pas de différence. On prend tout le monde et il y a toujours un rôle pour quelqu'un. Voilà.
Ma dernière question, c'est quel message vous auriez adressé à un jeune auditeur ou quelqu'un qui souhaiterait s'engager mais qui n'ose pas le faire ?
Tu veux que je réponde du coup ? Il s'est défilé. Alors, quelqu'un qui veut s'engager mais qui n'ose pas le faire. Déjà, venir nous rencontrer. Ou nous envoyer un message sur notre Instagram, notre Facebook. On répond assez vite. On est trois à la communication aujourd'hui, donc il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Alors vous faites pas attention, hein, on a un message automatique qui arrive, mais voilà, c'est pour prévenir. Je sais que ça agace certaines personnes, mais au moins ça permet d'avoir quand même un petit truc. Donc venez nous voir. On va lancer. Alors on va peut-être pas faire de porte ouverte parce qu'on est assez fatigué, on a plus beaucoup de personnel. Mais on va faire une réunion d'information début septembre, donc suivez bien sur l'Instagram, on partage la date et l'heure, et puis n'hésitez pas à nous envoyer un message, on répond avec plaisir.
Très bien. Florian, deux dernières questions pour toi également.
Au bout de combien de temps pouvez-vous demander une mutation dans un autre club de la SNSM partout en France ?
Alors, il n'y a pas de demande effective, en fait, si jamais on est à Rouen et puis qu'on veut aller au Havre. On a un centre de formation au Havre aussi, qui est géré donc par un autre directeur. On fait juste la demande en disant à notre directrice ou directeur, voilà, moi je vais au Havre maintenant, ça te dérange si je vais là-bas? On fait un partage de fiches de bénévoles, on informe l'autre centre, et puis voilà, ça, une fois qu'on est sauveteur et qu'on est à la SNSM, on peut aller partout. Y a pas de souci, donc on peut aller très bien aller à Caen, mais comme dans le sud, dans d'autres centres.
Et au niveau des équipiers, vous avez plus de femmes ou d'hommes?
On a quand même plus d'hommes. on aimerait bien qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une minorité de femmes? Je sais pas. Parce que les femmes qu'on a sont tout aussi capables que les hommes, hein, donc il n'y a pas de... Je sais pas, peut-être que ça les tente moins, ou peut-être qu'elles n'ont pas envie de faire ça tout simplement, ou qu'elles ont peur, voilà, qu'elles n'osent pas, qu'elles ont peur de faire moins bien, mais c'est pas vrai. Toutes les équipes Pierre que j'ai eues ont été super, donc il n'y a pas de raison.
Eh bien, merci messieurs de nous avoir accordé cet entretien. On va le retrouver donc très rapidement dans le podcast Normand, et donc suivez la SNSM sur les réseaux ici, et n'hésitez pas à rentrer en contact, hein. Je pense que personne ne mord, hein. Personne ne nous a mordu ici, hein, pas encore.
Moi je peux confirmer que c'est vrai qu'ils répondent très vite sur Instagram.
Ils répondent très vite sur Instagram, donc si vous avez envie de vous engager, n'hésitez pas, vous aurez très vite une réponse. Merci et à bientôt.
Bah, merci à vous.
J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison. Après, on se retrouvera le lundi 4 septembre pour de nouvelles aventures en Normandie, bien sûr.